Bien, nous reprenons donc notre lecture, cette fois des trois textes d'Erasme que je vous ai annoncés. Dulce bellum in expertis, donc l'adage qui se trouve au commencement du quatrième volume de la belle édition qui vient d'être publiée par Jean-Christophe Saladin. Donc c'est le Proverbium, l'adage 3001. Mais c'est en réalité un traité, Querela Pacis de 1517 et Convivium Religiosum, Bâle 1522. C'est vraiment trois textes essentiels et j'ajouterai que M. Saladin nous fait l'honneur de venir pour, pour un séminaire supplémentaire nous présenter, je dirais, un peu l'héritage de cette édition. Je vous annoncerai la semaine prochaine la date parce que le collège a un problème sérieux de salle. J'essaierai de toujours le placer le jeudi matin. Nous verrons quel jeudi matin, de sorte à ne pas perturber l'ordre du séminaire. Mais je serai heureux d'avoir directement la voix de celui qui, si patiemment et d'une manière... avec une réussite si magnifique, nous a fourni les adages Erasmus redivivus. Erasme renaît par cette édition et il est important d'entendre donc l'auteur de cette édition. Je commence par le centre même du traité, puisque Erasme même, alors la guerre est facile pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, au centre, au cœur de ce traité, Erasme suscite l'argument que j'ai évoqué au commencement. Nato Christo, non bellum, neque triumphos, sed pacem canunt angeli. De nondum nato, precinuit vates ille mysticus, et factus est, in pace loco eius. À la naissance du Christ, les anges ne chantent pas la guerre, ni les triomphes, mais la paix. Pax hominibus bonae voluntatis. Et avant sa naissance, le prophète mystique avait chanté en pensant à lui, et sa place fut faite dans la paix. C'est-à-dire que la place du Sauveur est une place dans la paix. Alors, cet adage célèbre l'un des plus importants du recueil commence avec la description du corps humain. Le corps humain est un corps animal qui n'est absolument pas muni pour mener des batailles ou des guerres. Nous sommes l'animal le plus nu. Nous n'avons rien qui couvre notre peau, rien à nous protéger. Voilà la belle oraison d'Erasme. D'abord donc, si quelqu'un considère seulement l'aspect et la forme du corps humain, ne comprend-il pas aussitôt que la nature, ou plutôt Dieu, a créé cet être non pour la guerre, mais pour l'amitié? Alors c'est devenu un terme presque proverbial, même jusqu'à 68, « Non bello sed amicitiae », ne faites pas la guerre mais l'amour, on disait en 68, mais c'est juste une sécularisation de quelque chose de très ancien que nous retrouvons déjà chez Erasme. Non pour la guerre, mais pour l'amitié, non pour la destruction, mais pour la sauvegarde, non pour l'injustice, mais pour la bienfaisance. De fait, elle, c'est-à-dire la nature, a doté chacun des autres êtres vivants d'armes propres. Elle a secondé de cornes la fougue des taureaux et de griffes la rage des lions. Elle a pourvu les sangliers de défenses foudroyantes, elle a protégé les éléphants en plus de leur poids et de leur masse, par une trompe. Elle a muni le crocodile d'écailles pareilles à des lames de métal. Elle a donné au dauphin des ailerons en guise d'armes, c'est ce qu'on croyait à l'époque. Elle a défendu le porc-épic avec des épines, la raie avec des piquants, le coq avec des ergots. Elle a couvert les uns d'une carapace, les autres de cuir, d'autres d'une coquille. Mais évidemment, l'homme, non. L'homme seul, elle l'a produit nu, faible, tendre, désarmé, avec une chair molle et une peau lisse. Solum hominem nudum produxit imbecillem tenerum inermem mollissima carne cute levi. Très belle description. Rien dans ses membres ne peut sembler destiné au combat ou à la violence, sans même mentionner le fait que presque tous les êtres vivants, dès leur naissance, sont capables de défendre leur existence, alors que l'homme seul vient au monde dans un état tel que longtemps il dépend entièrement de l'aide d'autrui. Toutes les autres espèces que nous connaissons, les chats, les oiseaux, deviennent rapidement autonomes, question de jours ou de semaines, et l'homme dépend des autres pour des années entières. Donc comment peut-on imaginer que l'homme soit prêt à une bataille puisqu'il dépend à peu près pour la plupart de sa jeunesse de l'aide des autres? Il ne sait ni parler, ni marcher, ni trouver sa nourriture. Il se contente d'implorer assistance par ses vagissements. Ceci suffit pour conclure qui est le seul être vivant né entièrement pour l'amitié, qui se forme et se consolide surtout par des échanges de services. Et ça aussi, c'est important. Hein? L'amitié est la forme essentielle de base pour reconnaître qu'en réalité, l'homme vit grâce aux services qu'il reçoit et qu'il rend aux autres, en commençant par sa nourrice pour arriver à ses pédagogues. Donc la nature a voulu que l'homme doive la faveur de la vie moins à lui-même qu'à la bienveillance des autres, hein, pour qu'il comprenne qu'il est voué à la gratitude et à l'amitié. À lui seul, je saute quelques passages, elle a accordé le rire, expression de la gaieté, homo animal risibile. À lui seul, les larmes, symbole de la clémence et de la pitié. Là aussi, le mythe de Démocrite et Héraclite, bien évidemment. Et puis, il avance dans cette description qui montre un homme, évidemment, fait pour les arts et pour la joie de la liberté. Il ajoutait encore le goût des études libérales, le désir de connaissance, aspiration qui à la fois détourne efficacement l'esprit de l'homme de toute sauvagerie et le prédispose particulièrement à nouer des relations. De fait, ni les liens de parenté, ni ceux du sang n'unissent les âmes d'une amitié plus étroite et solide que l'intérêt partagé pour des études honorables. Là aussi, un plaidoyer pour la res publica littéraria que Jean-Charles Darmon étudie si bien. Là-dessus, elle a reparti avec une admirable variété entre les mortels les dons du corps et de l'esprit, pour que chacun trouve en autrui des qualités à aimer et admirer pour leur excellence, etc. Enfin, elle a inséré en l'homme une étincelle de l'esprit divin pour que même sans l'espoir d'une récompense, il aime à rendre service à tout le monde. Même si ça, c'est pour dépasser les officia de Cicéron, même si nous n'entendons pas une récompense, eh bien, nous devons faire également, rendre service aux autres, puisque c'est l'esprit divin que nous avons en nous qui nous le demande, qui nous le commande. Partout, il y a cette description des qualités de l'homme, et il ajoute, même les bêtes brutes le sentent, puisque nous voyons non seulement les animaux domestiques, mais aussi le léopard, les lions et les bêtes encore plus cruelles recourir dans les grands dangers à l'aide de l'homme. C'est pour toutes les créatures le dernier asile l'autel le plus saint, l'ancre incontestablement sacrée. L'homme comme une espèce de réceptacle des désirs de toute la création. Nous avons, vaille que vaille, dressé le portrait de l'homme. Maintenant, opposons-lui, si tu veux, le tableau de la guerre. Et alors là, il y a la description de la guerre, les malheurs de la guerre, comme on les voyait dans les gravures de l'époque, mais qui arrive surtout à toucher, comme point essentiel, le peuple. Le peuple est toujours au centre de la réflexion de ces adages d'Érasme. Je tairai aussi les conséquences habituelles des guerres, fussent-elles les plus heureuses et les plus justes, à savoir le peuple dépouillé, les gants accablés d'impôts, tant de vieillards laissés seuls et plus douloureusement accablés par le massacre de leurs enfants que si l'ennemi leur avait enlevé avec la vie la faculté de souffrir, tant de vieilles femmes abandonnées et condamnées à une mort plus cruelle que celle par le fer, tant d'épouses veuves, tant d'enfants orphelins, tant de maisons dans le deuil, tant de riches réduits à la pauvreté, sans parler de la dégradation de mœurs, etc. Donc vous voyez que le centre est toujours la condition humaine et dans la guerre, ce qui est plus terrible, c'est que l'homme lutte contre l'homme, tandis que dans le règne animal, les espèces ne luttent pas à l'intérieur d'elles-mêmes. Les lions ne se battent pas contre les lions, etc. Il me semble à moi, plus que sauvage et bestial, de lutter avec les armes. Et si on regarde donc les troupeaux, ils se déplacent en troupeau et se portent mutuellement assistants. Et même les animaux sauvages ne sont pas tous agressifs par nature. Les serpents sont en paix avec les serpents, les bêtes venimineuses s'entendent. Pour l'homme, en revanche, aucune créature n'est plus dangereuse que l'homme. Le texte latin est très, très fort. At homini, nulla fera perniciosor quam homo. Aucune bête sauvage n'est plus dangereuse pour l'homme que l'homme. Et c'est là que Érasme reprend l'adage latin « homo homini lupus ». L'homme, lui, quel qu'il soit, lutte continuellement contre l'homme et il n'y a entre les mortels aucun traité vraiment solide. Nous retrouverons cela dans le traité de 1517 et c'est quelque chose qui s'esquisse. N'oublions pas que Érasme était le legatus du futur Charles Quint et qui, pour l'instant, était simplement Charles, roi d'Espagne. C'est le traité de Cambrai. Et Érasme, qui était legatus du roi, essaye vraiment de plaidoyer pour ce traité de paix qui aura lieu et qui concernera les grands de l'Europe, sauf Henri VIII d'Angleterre. Mais Érasme, et vous voyez la différence entre l'homme politique et, disons, le penseur, même au moment où, dans le Querela Pacis, plaidoie pour ce traité, montre que les traités ne sont pas suffisants. Il ne faut pas penser que la paix soit réglée par les traités. Il le dit même dans le Querela Pacis, les traités sont une trêve pour des guerres encore plus sanglantes. Et le Querela Pacis et le Dulce Bellum in Expertis ont à peu près les mêmes arguments distribués autrement. Et dans le Querela Pacis, il y aura juste un chapitre final qui a un peu plus de théorie politique, mais pour l'essentiel, les deux vont de pair de la même manière et je dirais que les arguments sont surtout des arguments d'ordre anthropologique et évangélique. Donc, il n'y a entre les mortels aucun traité vraiment solide. Neculum satis firmum fedus inter ullos mortalium. En plus, maintenant, on est encore plus cruel, puisqu'on se bat avec des projectiles imprégnés de poison et des machines infernales. On voit la stupeur de nouveaux instruments de bataille décrits par Léonard. Et je ne sais pas si vous avez vu l'un des films de Ermanno Olmi, qui est consacré un peu à ce Giovanni dalle bande nere, et qui devient la dernière victime d'une manière classique de se battre contre l'instrument qui n'est pas noble des machines infernales et des instruments qui sont liés à la nouvelle artillerie. Et Erasme a un peu la même attitude de l'humaniste, qui pense encore à la bataille entre l'homme, et non pas entre l'homme et les machines. Et il dit de ces machines, « Quel spectacle extraordinaire ai-je devant les yeux? Quel enfer nous a produit ces monstres ?» Donc les nouveaux instruments sont sortis directement de l'enfer. « Tartareis machinis ». Nullam usquam hominis vestigium. Il n'y a plus aucune trace d'humanité. Donc il avance dans cette description de la guerre et il dit que tout cela est d'une grande folie. Quelle maladie ou quel hasard a donné à l'homme pour la première fois l'idée d'enfoncer un fer mortel dans les entrailles de notre homme? Il faut qu'on en soit venu pour bien des étapes, a une si singulière folie. Et dans ce cas-là, folie, évidemment, n'est pas la folie de l'éloge, mais l'insania, la démence que nous évoquions hier. Et il fait l'histoire de la naissance de cette folie. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Erasme, qui ne veut pas toucher pour ce point au texte biblique, n'évoque pas le fait que la Bible commence par l'assassinat, pour ainsi dire, de deux frères, c'est-à-dire Caïn qui tue Abel. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours frappé en lisant cet adage, mais il y a une attitude, je dirais, un Erasme inattendu. C'est-à-dire que Erasme, avec des arguments qui seraient aujourd'hui à la page chez les écolos, il met entre parenthèses ce texte fondamental pour comprendre le fait que l'homme est un animal meurtrier, hein, c'est-à-dire le fait que finalement la Genèse commence par un crime. Et il met tout cela entre parenthèses, il dit « Ah ben écoutez, l'homme a mal commencé puisqu'on lui a appris à se renforcer par la chasse aux bêtes. S'il n'y avait pas eu les mythes grecs d'Hercule, peut-être que les choses auraient changé. Je vous lis le passage parce que c'est très curieux. Il dit d'où cette maladie s'est instaurée dans l'homme. Eh bien, il dit, c'est quand on a commencé à aller à la chasse. Comme ses actions ont été l'objet de très grands éloges, c'est ainsi qu'Hercule a été divinisé, voyez. Il remonte par un autre biais. Il ne veut pas mettre en cause la Bible, parce qu'il a peur, évidemment, qu'autrement, on lui sorte une vérité théologique au devoir de la guerre. Et c'est précisément ce qu'il veut nier. La Bible n'impose pas la guerre. Au contraire, c'est notre anthropologie, notre fausse anthropologie qui descend d'un monde païen qui nous a mis sur cette route. Alors, c'est un défi évidemment risqué, mais Erasme le court. Voilà donc son texte. C'est ainsi qu'Hercule a été divinisé. La jeunesse courageuse commença à faire partout la chasse aux bêtes sauvages, à montrer leurs dépouilles comme un trophée. Ensuite, les jeunes gens, non contents de les égorger, se couvrirent de leur peau contre les rigueurs de l'hiver. Tels furent les premiers meurtres, les première dépouille. La Genèse mise entre parenthèses. Ensuite, allant plus loin, ils osèrent une chose que Pythagore a jugée profondément impie et qui pourrait nous sembler monstrueuse si l'habitude ne nous l'empêchait. L'habitude a partout tant de force que chez certains peuples, il était considéré comme pieux de jeter son vieux père dans une fosse après l'avoir roué de coups et d'arracher ainsi la vie à celui de qui on avait reçu le présent de la vie. On a reçu de l'habitude comme sain de se nourrir de la chair de ses proches amis. On a déjà à l'esprit le traité des cannibales. Comme beau de prostituer une jeune fille dans le temple de Vénus et bien des choses plus absurdes encore dont la seule mention serait pour tous un objet d'abomination. Il y a encore des pages plus radicales, par exemple le fait que nous mangeons des bêtes mortes. Hein, la tyrannie du ventre devint telle qu'aucun animal nulle part n'était à l'abri de la cruauté humaine. L'homme qui se nourrit de viande, c'est-à-dire de la chair des animaux. C'est un argument qu'il faudrait de temps en temps sortir. On sait pourtant que Erasme était partiellement végétarien, mais qui aimait aussi quelques pigeons, mais disons avec beaucoup de réserve. Il appréciait la volaille et pas plus que cela. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce caractère, même s'il y a quelques parfums de présent, mais plutôt le fait que la cruauté est apprise, hein, en commençant par le besoin d'exterminer ou d'aller à la chasse, d'exterminer les autres espèces animales. Et donc il dit, maintenant, nous sommes tous pliés par ces habitudes et donc nous nous donnons à la guerre au lieu de nous consacrer comme Pythagore à la philosophie. Et Pythagore qui avait prévu dans sa grande sagesse qu'il enseignait, il cherchait par son enseignement philosophique de détourner la multitude ignorante d'abattre le bétail. Parce qu'on commence par le bétail et puis on terminera par les hommes. Et en effet, la guerre, aujourd'hui, est-elle. Or, la guerre est-elle autre chose qu'un meurtre et un brigandage commis collectivement, et d'autant plus criminel que les hommes l'accomplissent sur une grande échelle. La guerre est un brigandage universel. Porro bellum quid aliud est quam multorum commune homicidium et latrocinium. Le terme latin est très fort. La guerre est finalement un vol. On fait la guerre pour voler à autrui les richesses, le territoire, l'autonomie, la liberté. La guerre est un vol cruel et sanglant. Et alors là, les pages d'Erasme sont vraiment de très belles pages. Nous sommes continuellement en guerre, nation contre nation, cité contre cité, prince contre prince, peuple contre peuple. Et encore. Et nous avons entendu de tels discours belliques, ici c'est contre l'esprit des croisades, de la bouche de moines, de théologiens et d'évêques. Les armées marchent l'une contre l'autre, brandissent chacune l'insigne de la croix qui aurait pu à lui seul rappeler à des chrétiens de quelle manière il convient de vaincre, c'est-à-dire par l'amour, par l'exemple et par la prédication. Sous cette bannière céleste qui représente la parfaite et ineffable union des chrétiens, on court au massacre réciproque et nous rendons le Christ spectateur et garant d'une chose si impie. Le royaume du Christ a cédé au royaume du diable. Et il avance par des pages et des pages sur ces éléments, et puis il revient pour compléter sa comparaison au bienfait de la paix, avec une définition que nous trouverons exactement dans le Querela Pacis. La paix est la mère et la nourrice de tous les biens. La guerre, au contraire, étouffe, détruit, supprime immédiatement et définitivement tout ce qui est joyeux, tout ce qui est beau, et elle déverse sur la vie des mortels une lerne de malheurs de toutes sortes. Alors, la guerre supprime tout ce qui est joyeux, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est ludique chez l'homme. Eh bien, je vous le cite parce que l'un des grands interprètes que j'ai évoqué dans le premier cours d'Erasme au XXe siècle, c'est-à-dire Johann Huizinga, écrira exprès, tout en sachant que les Allemands, les nazis, vont investir les Pays-Bas, et donc ce sont les premiers à être envahis, et Huizinga, l'un des premiers à en faire les frais, eh bien, néanmoins, il écrira exprès en 1938 Homo Ludens. Non seulement la vie d'Erasme, que nous avons juste un peu parcouru, mais nous y reviendrons, mais surtout en 1938 Homo Ludens. L'homme est fait pour le jeu, pour la paix, pour le bonheur, hein, et non pas pour la guerre. C'est un traité magnifique d'une grande, je dirais, d'une grande force utopique et avec une conscience du malheur des temps. Néanmoins, et presque à cause de cela, il faut continuer. Et il le dit, j'entends maintenant dans ma ville le pas ferré retentir. Ce n'est pas ce type de rythme que je demandais dans mon Homo Ludens. Mais nous lirons ce passage. Je vous le conseille d'ores et déjà, nous reviendrons dans les derniers cours quand nous parlerons de Huizinga Tenenti Bataillon. Donc la paix est la mère et la nourrice de tous les biens, de tout ce qui est bon et de tout ce qui est gratuit. Je saute maintenant quelques passages, quelques pages, et je reviens donc à au final de cette argumentation. Donc, puisque la paix est la meilleure et la plus agréable des choses, la guerre, au contraire, est la plus malheureuse et en même temps la plus criminelle des actions humaines. Et à partir de cela, Erasme arrive même à une espèce de comptabilité de comment la guerre est coûteuse et combien la paix est moins chère. Alors, argument en ce moment très important parce que plusieurs pays sont en train de se munir d'avions de chasse dont on vient d'apprendre qu'ils sont inutiles, et ça coûte infiniment plus que la réforme des écoles dont, pour lesquelles on ne trouve pas d'argent. Eh bien, Erasme le dit déjà, si nous voulons recourir à l'arithmétique, évaluer avec des vrais calculs combien coûte la guerre et combien la paix, nous découvrirons assurément que celle-ci peut être acquise avec 10 fois moins, hein, il insiste, 10 fois moins de soucis, de peine, d'argent, de danger, de dépenses et enfin de sang. Oui, la paix coûte moins cher. Il faut le dire avec force aujourd'hui. La paix coûte moins cher que la guerre. Dans le Querela Pacis, j'espère y arriver, donc je vais être un peu plus court dans cet adage qui est la base de tout, dans le Querela Pacis, dira même, il y a des princes qui ont acheté la paix. Ce n'est pas indigne. Il y a des princes qui ont acheté la paix. Ce n'est pas indigne. Puisque une belle guerre aurait coûté plus cher, aurait fait verser plus de sang humain, etc., etc. Il y a toujours cette attitude de respect, d'attention vers le commun, pour ainsi dire, du peuple, qui est toujours la victime des guerres. Hein. Mieux vaut acheter la paix que faire une guerre. Et je viens maintenant à la partie finale, puisque je voudrais encore vous lire les autres traités. C'est vraiment un traité de 40 pages. Mais le problème se pose du moment que les chrétiens font la guerre pour des raisons « guillemets nobles », par exemple pour libérer le Saint-Sépulcre et se battre contre les infidèles. Et ici, il y a la partie plus riche au point de vue théologique. C'est sur ce point que je retiens finalement votre attention pour quelques minutes. D'une manière ironique, il dit, mais plus respectable paraît le discours de ceux qui mettent en avant la défense de l'Église. Comme si le peuple n'était pas l'Église. Vous voyez, il y a une force évangélique extraordinaire. Quasi vero populus non sit ecclesia. Quand on voit les constitutions de Vatican II, et les discours de Paul VI, eh bien, ça vient directement d'Erasme. Populus est ecclesia. Point. Quasi populus non sit ecclesia. Et quoi donc, comme si le peuple n'était pas l'Église, comme si toute la dignité de l'Église résidait seulement dans la puissance des prêtres. Comme si l'Église était née, avait grandi et s'était imposée par les guerres et les carnages, et non pas plutôt par la patience des martyrs. Donc, vous voyez que là, Erasme prend une attitude radicale. L'Église vise au salut du peuple et non pas à la puissance des prêtres. Et je crois non plus qu'il faille approuver les projets répétés de guerre contre les Turcs. Même pas la guerre contre les Turcs est suffisante. Ce n'est pas par ces armes qu'on soumettra les Turcs. C'est par les armes classiques de l'Évangile. Une vie innocente, le désir de faire du bien même à nos ennemis, une patience invisible devant toutes les offenses, le mépris de l'argent, l'indifférence à la gloire, une existence simple. Voilà le texte d'Erasme. Et le latin est encore plus clair. Hein. Quand on dit la vie simple, c'est vita vilis, la vie humble du commun du peuple. Vita vilis. Toutes les fois que Erasme est face au terme simple, vous l'avez vu hier à propos de Pusilli, il va plutôt toujours du côté plus proche au degré zéro. Hier, par exemple, en lisant le texte, nous avons vu que Erasme dit « Mais le texte grec ne dit pas les petits, mais dit ceux qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. » Donc, voilà que la folie est justifiée même par les évangiles qui ne sont pas adressés aux simples dans le sens contemporain de ce terme, mais à ceux comme les petits-enfants, qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Et ici, même chose, vita vilis, pas simplex ou communis, vilis. Il choisit le terme le plus bas dans l'échelle, vita vilis. Donc, il y a une force là extraordinaire dans cette partie finale. Et en plus, comme il était historien et philologue de l'Église, il ajoute, à juste titre, « Au reste, ce que nous nommons Turcs sont pour une large part à moitié chrétiennes. » Il considère toute la partie des traditions chrétiennes, des Églises d'Orient, qui sont sous la domination des Turcs, mais pourtant sont des chrétiens. Et peut-être plus proches du christianisme véritable que la plupart d'entre nous. Combien n'y a-t-il pas parmi nous qui ne croient ni à la résurrection des corps, ni à la survie de l'âme? Et donc, il faut faire attention parce que nous sommes aussi hérétiques que les Turcs. Et il termine en disant « Je termine mon texte parce que je développerai un peu plus abondamment toutes ces questions quand je publierai mon livre intitulé « Antipolemus », alors « Contre la guerre ». Alors, est-ce qu'il s'agit de la Querela Pacis? Est-ce qu'il s'agit d'un texte qu'il n'a pas terminé? Moi, je pense que c'est plutôt Querela Pacis, mais il n'y a pas de certitude. Que j'ai écrit autrefois, durant mon séjour à Rome, à l'intention du pape Jules II, le pape que, Dante, et que Michel-Ange aimait, au moment où on a envisagé de déclarer la guerre aux Vénitiens. Alors, il faut se rappeler qu'Erasme avait un amour extraordinaire pour Venise, puisqu'il était venu pour habiter chez Aldmanus et faire la, son exercice d'édition des grands classiques grecs. Donc, donc, ce pape Jules II, au moment où on envisageait de déclarer la guerre aux Vénitiens, un fait a déploré plutôt Canier. Donc, il avait écrit pour suggérer de ne pas faire cette guerre contre Venise. Et il dit, si l'on examine attentivement le problème, on découvrira que presque toutes les guerres des chrétiennes ont pour origine la sottise et la méchanceté. Voilà donc quel est le texte, et j'arrive donc à la page finale. Si le Christ est une fiction, pourquoi ne pas le rejeter franchement? Mais s'il est vraiment la voie, la vérité et la vie, pourquoi toute notre conduite s'écarte-t-elle à ce point de ce modèle? C'est-à-dire que si nous reconnaissons comme modèle le Christ, il faut nous aimer et ne pas mener des guerres. Hein? Embrassons la cause de la paix pour que le Christ, en retour, nous reconnaisse comme sienne. Et puis, il y a la péroraison finale qui est très belle. Puissions-nous enfin, dégoûtés de guerres si longues, être touchés par le désir de paix. Le malheur même nous y pousse. Le monde fatigué de souffrir le réclame. Le Christ nous invite et nous y sommes exhortés par le pape Léon, dixième de ce nom, qui représente sur terre Jésus-Christ, le vrai Salomon pacificateur. Salomon signifie donc porteur de paix, selon l'étymologie d'Erasme. Alors, je termine sur ce point qui ne sera pas présent dans le Querela Pacis, parce que, très curieusement, l'adage se termine par l'éloge de Giovanni de Medici, Léon X, qui était très lié à Erasme, donc fut pape de 1513 à 1521, donc le moment plus difficile pour l'histoire de l'Église. Et il faut bien dire que c'est Léon X qui, avec sa fascination, son autorité, son humanisme, retiendra d'une certaine manière Erasme du côté catholique. Et même peut-être sera à la base de certaines positions d'Erasme sur le libre arbitre. Le roi d'Espagne, Léon X. Enfin, Erasme était tellement convaincu que l'éducation libérale fournie par les lettres était la base de toute liberté qu'il ne pouvait pas admettre qu'il y ait quelque chose qui puisse limiter cette liberté. C'est le grand le fond même, le soubassement, le grund de son de liber arbitrio, mais qui est nourri plutôt par un certain humanisme que par des études de théologie médiévale, etc. Et c'est aussi la fascination d'Erasme aujourd'hui. Nous avons tout à fait la liberté, le droit de nous réclamer de son héritage. Du reste, Luther le voit très bien. Et il dit, mais ton de libre arbitre plutôt nourri de lettres que de sagesse biblique. Et bon, il radicalise aussi sa position. Il faut bien dire que là, Erasme, d'une certaine manière, mais nous le verrons dans le cours la semaine prochaine, a contribué à radicaliser la position de Luther. Mais je voulais maintenant vous proposer seulement les passages qui diffère un petit peu de la, dans la querela pacis, parce que pour la plupart donc, du texte, il y a les mêmes arguments et quelquefois même les mêmes mots. C'est un texte qui a été rédigé la veille de la, du traité de Cambrai, 11 mars 1517, et qui fut publié la même année à Bâle. Je vous lis le passage que je vous évoquais hier, c'est-à-dire la paix désormais isolée, solitaire, qui prend la parole exactement comme la folie au centre de la scène, antissant son propre éloge. S'il est mortel, malgré mon innocence et en dépit des avantages que je leur offre, me haïssent, me rejettent et me terrassent, je ne saurais que déplorer l'affront qu'ils me font et leur iniquité. Donc la paix est obligée de tisser son éloge puisque les mortels la délaissent. Si je suis en réalité cette paix tant vantée par les dieux comme par la voix des hommes, la source, la mère, la nourrice, la protectrice de tous les biens que possède le ciel ou la terre, si hors de moi rien ne prospère ici-bas, si rien d'assuré, rien de pur au dessein, rien qui soit agréable aux hommes ou dont les dieux vous soient reconnaissants ne peut s'établir, eh bien, si en revanche la guerre porte tous les malheurs, etc., pourquoi m'oubliez-vous ? C'est un long passage magnifique d'une grande rhétorique humaniste, si tout cela est vrai, pourquoi m'oubliez-vous ? Et après, Érasme décrit encore une fois l'homme comme incapable, ne pas doué par la nature pour porter la guerre, et il radicalise un peu les arguments déjà annoncé « nel dulce bellum inexpertis ». Ainsi donc, par d'innombrables témoignages, la nature a enseigné la paix et la concorde. Elle se sert de 1000 séductions pour nous engager dans sa voie. Tant de liens nous poussent vers elle, tant de raisons nous entraînent dans la direction de la paix. Et après, il reprend le discours de la furie de la guerre. Enfin, disons que les passages sont à peu près les mêmes, simplement, il radicalise les arguments concernant la guerre à l'intérieur de l'Église. Autant de confréries, autant de fractions. Les dominicains sont en conflit avec les frères mineurs, les bénédictins avec les bernardins. Autant de noms, autant de cultes, autant de cérémonies différentes d'esprit, de crainte de s'accorder en quoi que ce soit. Chaque confrérie n'aime que ses règlements, chacune condamne et haït ceux des rivales. Bien plus, la même confrérie se scinde en plusieurs fractions. Les observants poursuivent de leur haine les collectants. C'est-à-dire, même à l'intérieur des franciscains, il y a des différences. Et comme les uns des autres détestent le tiers-ordre, qui tirent leur nom des conventuels et de leur couvent, alors que même parmi ces derniers, aucune convention n'est de règle. Donc il arrive même en profondeur dans les ordres, dans la crise et les dissensions des ordres religieux. Dans ce qui concerne l'Église, non seulement cette fois il dit que le Christ apporter la paix, mais que tout ce qui n'est pas de la paix prêche l'Antichrist. Quiconque a annoncé la venue du Christ a annoncé la paix, quiconque a annoncé la guerre prédit la venue de celui qui est à l'opposé même du Christ, c'est-à-dire l'Antichrist. Donc, vous voyez, il y a quand même des nuances importantes qui montrent que ce traité est quand même un traité qui n'est pas seulement une variation, une variante des adages. Après, il fait tout l'examen des Écritures pour montrer que la paix est le seul legs qui nous a été confié. Et puis, il dit que l'homme, en faisant la guerre, est plus cruel que les animaux, Et je viens à ce que je vous disais, la partie finale plus politique. Une paix solide ne repose pas sur des liens de parenté entre les familles princières, c'est-à-dire une politique de mariage, ni sur des traités conclus entre des hommes, d'où nous voyons fréquemment l'origine de nouvelles guerres. Ce sont les sources elles-mêmes d'où découle ce mal qu'il faut nous purifier, c'est-à-dire les passions mauvaises qui engendrent des désordres tumultueux. Donc il faut nous purifier. C'est toujours à l'intérieur de nous-mêmes qu'il faut conduire notre bataille. Et les princes chrétiennes sont élus au seul service de l'utilité publique. Cette partie finale, donc, de la complainte de la paix, est plus politique et on revient, je dirais, au noyau de la politique comme service, l'utilité publique, le bien commun. Et puis, il y a même des propositions concrètes, un peu utopiques, mais qui montrent l'idée que Erasme avait à l'esprit. Il faut trouver un moyen pour faire en sorte que les empires ne changent pas aussi souvent de main et qu'ils se promènent en quelque sorte, car tout changement dans l'ordre politique produit des troubles et les troubles produisent la guerre. Erasme est quelqu'un pour la stabilité des royaumes, mais pas pour les princes nouveaux comme Machiavel. En outre, il ne doit pas être permis à un prince de vendre ou d'aliéner une portion de ses états comme si des cités libres étaient des propriétés privées. Vous voyez la force contre les traités qui font l'échange d'une portion d'état pour améliorer les frontières, pour trouver une... Parce que les cités ne sont pas des propriétés privées. Qu'il y ait une fois pour toutes, voilà la raison du traité de paix pour lui, mais un traité de paix universel, entre les princes, une convention qui précise pour chacun le territoire qu'il doit administrer et une fois établies les frontières, qu'aucune alliance familiale ne puisse les déplacer en avant ni les ramener en arrière, qu'aucun traité ne puisse les détruire. Donc, si vous voulez, il y a une vision de stabilité, l'idée que l'Europe est telle, il ne faut pas trop y mettre les mains, puisque à chaque fois, on aura des guerres. Et j'arrive au point que j'avais annoncé, il arrive parfois qu'il faille acheter la paix. Quand tu aurais fait le calcul, en mettant en balance les pertes que la guerre occasionne, et le nombre de citoyens qui, sans elle, auront été sauvés de la mort, elle paraîtra acheter à bon marché, quel que soit le prix dont on l'a payé. Quel que soit le prix dont on l'a payé. Mieux vaut acheter la paix que faire la guerre. C'est peut-être le trait le plus radical de l'éloge de la paix d'Erasme. Et encore, il le répète, fais le calcul. Quelle somme de malheurs évités, quelle quantité de biens préservés, on n'aura pas à regretter le prix à payer. Et là, c'est peut-être la partie la plus risquée, mais aussi plus radicale d'Erasme. Et enfin, il dit la paix est surtout une attitude intérieure. Enfin, la paix réside en grande partie dans le fait de la vouloir de toute son âme. Et en effet, ceux qui la tiennent vraiment à cœur saisissent toutes les occasions qui lui sont favorables. Ils aplanissent les difficultés qui s'y opposent. Ils supportent un grand nombre de malheurs pourvu que soit conservé cet immense bien qu'est la paix. Et c'est à ce titre que le traité se termine avec un appel qui est adressé à tous et à chacun. J'en appelle à vous, princes, de la volonté de qui dépendent les affaires du monde, qui représentez parmi les mortels l'image du Christ. Je n'appelle à vous, prêtres consacrés à Dieu, exprimez de toute votre ardeur ce que vous savez être le plus agréable à Dieu. J'en appelle à vous, évêques, et à vous aussi, hauts dignitaires ecclésiastiques. J'en appelle à vous tous, sans discrimination, et qui que vous soyez, et qui vous rangez sous la bannière du Christ, tous unis dans les mêmes sentiments, conspirez à l'avènement de la paix. C'est un passage d'une magnifique rhétorique, c'est les dernières pages du traité, et c'est par là que ce grand manifeste de la paix universelle se termine. J'ai encore quelques minutes, je voulais au moins vous lire le passage. Il est tellement et radicalement contraire à la guerre que ces termes arrivent également dans le traité, dans le colloquium qui est consacré à la vérité de la religion, colloquium religiosum, qui suit de quelques années, Bâle 1522, écrit au moment où on se rend compte qu'il n'y aura plus de liaison définitive avec la réforme, avec Luther surtout. Alors, tout d'abord, Erasme, il dit que il faut limiter, il ne faut pas laisser entrer le lion dans la cité, limiter la puissance par l'autorité des magistrats et des citoyens. Donc vous voyez qu'il est contre les pouvoirs absolus. C'est pourquoi, du reste, il a longuement habité dans une espèce de ville-cité comme Bâle. Et puis, il arrive à, je dirais, aux déclarations les plus radicales. Non seulement il faut éviter la guerre et chercher la paix, mais surtout rappeler, comme le Christ le dit, « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Aucun sacrifice n'est important. Ce qui compte est le pardon réciproque. Il ne faut pas élever des victimes, mais cultiver la paix. Il s'agit donc de se réconcilier avec son frère. C'est de la miséricorde. Il faut non pas des victimes avec des cérémonies qui nous portent à quelques affinités avec le judaïsme, mais plutôt faire cette paix à l'intérieur et ses sacrifices à l'intérieur de nous-mêmes. Il prêche, en somme, une religion de l'intériorité, de la purification, une sagesse de l'Esprit-Saint. Ce grand texte est, je dirais, l'un des manifestes les plus beaux de l'évangélisme érasmien, qui n'est pas vraiment sola littera, mais qui est plutôt animé par le souffle de l'Esprit-Saint. Et dans son texte, il dit « C'est à l'intérieur qu'il y a la pierre la plus précieuse. Ce sont les épîtres de Paul que j'emporte partout avec moi comme une source de délices incomparables. » C'est un peu cet héritage, nous l'avons lu hier, de la première et de la deuxième lettre aux Corinthiens, que Erasme, encore une fois, nous propose ici. Et ce traité qui met en place une sorte de repas convivial avec comme sujet la vérité, la profondeur du kérugma, de la religion, se termine sur quelle est la prescription que le Christ nous a donnée. Et je ne lirai là, ce midi, alors il faut vraiment que j'arrive à la conclusion. Le convive est finalement ce qui lie le repas, le premier miracle, le repas de Cana, et le dernier repas du Jeudi Saint. C'est le bonheur et la joie de l'amitié. Encore une fois, vous voyez cette grande respiration humaniste d'Erasme. Je ne lirai que ce passage. Sois glorifié au Maître, sois glorifié au Saint, sois glorifié au Roi, de nous avoir donné ces nourritures. Emplis nos cœurs de joie et d'allégresse dans l'Esprit Saint, afin que nous trouvions grâce à tes yeux et ne soyons pas couverts de honte quand tu rendras à chacun selon ses œuvres. Et voilà donc, c'est le bonheur et l'allégresse de l'Esprit Saint. Voilà, je termine sur ce point, puisque, me semble-t-il, le fil explicite, ou souterrain quelquefois, qui lie tout ce que nous avons lu autour du bonheur de la paix, c'est que la paix est le signe de la koinonia, de la communauté. C'est ce que Roland Barthes, du reste, avait très bien, dans son cours ici au collège, remarqué dans le « Comment vivre ensemble ». Le signe du « Comment vivre ensemble » est le bonheur de se réunir, de respecter l'autre, de partager, et le fruit est cette espèce de jouissance, Barthes le dit avec un magnifique terme, jouissance. Le fruit de la paix est la jouissance, et la jouissance est là quand elle dépasse le désir qui l'avait formulé. C'est très beau. Il ne suffit pas de vivre de désir, il faut arriver à cette jouissance, et la jouissance n'est donnée que par la convivialité d'une petite communauté qui a établi en son sein la paix. Voilà donc le discours érasmien qui a été, comme vous le voyez, suivi le long des générations et des siècles, qui est arrivé aussi à la parole de Roland Barthes et que nous reprenons aujourd'hui avec... je suis désolé de ne pas pouvoir lire tous les colloquia, mais au moins le convivium religiosum devait être évoqué pour contribuer à l'idée, à la géographie de cette paix qu'Érasme prêche. Évidemment, cette norme nuancée, donc je présente déjà aujourd'hui mes excuses pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous entrerons dans le contentieux le plus dur, le plus tragique, pour utiliser les mots mêmes d'Érasme, de tout le XVIe siècle, des libero arbitrio, des servo arbitrio. Mais par cela, nous aurons à peu près aborder les grands thèmes d'Érasme, de sorte que les séminaires, à partir de la semaine prochaine du séminaire que Simona Munari va nous donner, pourront toucher ce qui m'est cher, c'est-à-dire Érasme en Europe. Nous aurons d'abord l'Espagne, puis il y aura la conférence de Madame Pitassi qui verra la réception difficile d'Érasme dans les pays réformés, donc il y aura tout un autre ensemble géographique. Il y aura après la conférence de Madame Piéjus qui va nous parler de l'Italie. Donc vous voyez, on aura à peu près toute l'Europe, et puis Monsieur Prandi qui va nous parler des manuscrits du Pasquillus retrouvés en Allemagne, de sorte que à peu près toute l'Europe sera là. Évidemment, il n'y a pas l'Angleterre, mais je l'évoquais dans mon premier cours, et je pourrais dire avec les mêmes mots qu'Érasme, dommage que l'Angleterre n'a pas participé au traité de Cambrai. Alors, voilà. Bien, alors, je vous remercie beaucoup de votre patience. Je vous présente mes excuses parce que ma voix n'était pas bonne. Et je vous invite pour demain à la conférence de M. Bertinetto. Voilà.